va vous raconter l'histoire de l'eau, ou plutôt l'histoire d'une femme. C'est une femme qui a besoin d'eau comme d'autres de whisky. Elle a besoin de plonger dans l'eau pour se sentir enveloppée, protégée, pour se sentir enfin chez elle. Il lui arrive même de se dire que la joie est liquide, qu'elle n'est pas solide ni aérienne, mais bien liquide. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'on déborde de joie. Elle plonge dans la mer, l'expression même de brasse coulée lui fait déjà du bien. C'est drôle quand même, il faut qu'elle ait la tête sous l'eau pour réapprendre à respirer. Elle arrête de penser et c'est une renaissance. La mer lave de tous les maux. Elle ne savait pas que Platon avait dit ça, mais elle est d'accord avec lui. La mer lave de tous les maux. On ne voit vraiment pas clair quand on a les pieds sur terre. Mais elle n'aime pas simplement l'eau claire. Elle aime également sentir dans l'eau l'appel des profondeurs. La nuit au fond. Elle aime que l'on puisse se noyer dans ce qui fait tant de bien, que l'on puisse disparaître dans ce qui nous fait renaître. La terre, le ciel, même le feu ne présentent pas tant de polysémie, tant d'ambiguïté, tant de troublantes vérités. Et si l'eau était la matière même de nos rêves, de nos songes? Les images de nos rêves n'empruntent-elles pas ce chemin de fluidité? L'eau murmure, l'eau nous parle, mais aussi nous abreuve, nous lave, nous régénère, nous purifie. Eau douce ou eau violente, eau bleue ou eau noire, lac immobile ou torrent impétueux, nous sommes faits de toutes les eaux, de cette eau que notre mère a perdue et qui nous a vu naître. Comment? En étant attentif à ce que Bachelard, dans L'eau et les rêves, nomme la morale de l'eau, être encore accroché à ce que l'on est, crispé sur son identité. L'identité, c'est ce qui reste identique à lui-même, figé comme dans du roc. Mais nous les anciens poissons, nous devenons. Et c'est dans l'eau, au cœur de son mouvement et de ses caresses, que nous pouvons accepter notre multiplicité, nos paradoxes, nos contradictions peut-être, et cette ivresse de n'être pas vraiment. Pourquoi donc s'accrocher à son identité quand on a la chance de connaître la grâce de la fluidité? Pour en parler ce matin, de l'eau et de nos songes, mais aussi d'identité multiple et de créativité, j'ai la joie de recevoir la chanteuse Keren Ann, dont le dernier album porte justement pour titre « Bleu ». Keren Ann, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon, pour nous accompagner dans notre rêverie sur l'eau et la créativité.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Keren Ann, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci de cette invitation, je suis heureuse d'être là.
Alors, dans votre dernier album, « Bleu », il est beaucoup question d'eau, sous l'eau, de plongée. C'est une eau qui à la fois protège et qui en même temps évoque aussi notamment le suicide de Virginia Woolf. Pourquoi cette présence comme ça de l'eau dans cet album? Qu'est-ce que vous avez voulu vivre ou nous faire sentir?
Je pense que l'eau, elle a toujours existé dans mon écriture et puis même dans ma musique. Et puis pas que moi, enfin plein de gens que j'écoute aiment cette matière qui peut être... qui peut... transmettre énormément une émotion. On dit toujours que dans une chanson, on donne une forme physique avec une architecture assez limitée à une situation et à une émotion. Et c'est vrai qu'utiliser l'eau en général, c'est très pratique.
Donc, l'eau est un conducteur, c'est ça?
Tout à fait.
Et alors, cette eau, elle est pour vous plutôt quelque chose qui rassure ou qui effraie?
Qui rassure, pour moi. Et même quand elle effraie, elle rassure parce qu'elle nous donne... Et en fait, ça peut être transparent, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut toucher. C'est un matériau qu'on arrive à ressentir.
Un peu moins quand même que le sable ou la pierre.
Sauf que le sable et la pierre sont denses. Alors que l'eau, même quand elle est presque invisible, on la sent.
Alors, Keren Ann, dans cette belle chanson, Sable Mouvant, il y a beaucoup de choses comme éléments. Puisqu'il y a de l'eau, du sable et du feu. Alors c'est quoi ce sable mouvant dans cette très belle chanson?
Bah déjà, ce sable mouvant, c'est cette voix d'il y a 20 ans, que je reconnais à peine. Cette voix à moi qui a tellement changé.
C'est une des questions que je vais aborder avec vous. C'est-à-dire que qu'est-ce qui demeure quand tout change, au fond? Si tout est fluide, sur quel sol on renforce son désir? Et c'est une question qui se pose d'autant plus que voilà, ça fait longtemps que vous chantez. Là, c'était une chanson d'il y a 20 ans, mais vous avez commencé il y a bien plus que 20 ans d'ailleurs.
Oui.
Et qu'est-ce qui ne bouge pas? Quel est le socle? Quel est le sol?
C'est bizarre parce qu'on pourrait vraiment dire que tout ce qui bouge ne bouge pas en fait. Bon, ça c'est une question classique, mais je me demande à quel point on reste en place, la voix reste la même, mais c'est la tessiture ou les frontières qui changent. Ouais. C'est-à-dire qu'on dit que toujours, si on prend par exemple cette voix, qu'avec les années, elle rabaisse en fait, comme la gravité,
ouais,
elle devient de plus en plus grave. Mais est-ce que finalement, avec tout ce qui est physiologique, est-ce qu'on ne va pas de plus en plus bas? Donc la voix, elle s'aggravit aussi. Et voilà, en fait, j'aime bien l'idée que tout soit mouvant. Le sable est mouvant, la voix est mouvante, elle change. Mais ça me donne, c'est juste une preuve que tout est de plus en plus solide. Plus c'est mouvant, plus c'est solide.
Et pourquoi?
Je pense que c'est une intuition. Je pense qu'on approche, on a cette intuition qui si on revient à la voix, par exemple, ou à l'écriture, au sujet qui nous obsède, ou ce qu'on a envie de dire, ou à l'eau, je dirais que d'un point de vue intuitif, on sait dans quelle direction ça va. Donc on sait que c'est mouvant, on sait.
Ce que je comprends dans ce que vous dites, mais je ne vous coupe que pour être sûr d'avoir bien compris, c'est qu'en fait, tout bouge, la voix évolue, puis on fait différentes choses, mais dans ce mouvement même, on a plein d'indices de ce qui est essentiel. Parce que
tout à fait.
On les mesure par contraste. Voilà, je peux vivre ceci, cela, avoir telle histoire, telle autre.
Tout à fait.
Mais si il y a quelque chose que je sens, que vous avez appelé l'intuition, bah c'est ça qui est en fait le sol.
Tout à fait.
Donc s'il n'y avait pas de choses qui bougent, on n'aurait pas le sol. On peut le dire avec les mots de la psychanalyse, c'est-à-dire que voilà, on a plein de désirs avec un S, on a plein de projets, plein de souhaits, mais il y a un désir autour duquel tout le reste gravite. Voilà, c'est-à-dire, ou alors si les mots de la psychanalyse ne nous plaisent pas ou ne vous plaisent pas, on peut avoir les mots de Sartre, il y a un projet, voilà, il y a un projet. Et pour Sartre, on ne fait que devenir. C'était un peu ce que je disais dans mon intro au début, voilà, nous ne sommes pas, nous devenons. D'ailleurs, c'est le sens du titre de Sartre, l'être et le néant. L'être, c'est l'être des choses. C'est l'être de la bouteille d'eau, la bouteille d'eau est une bouteille d'eau, et nous, les humains, nous sommes le néant, mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes rien, ça veut dire que nous sommes ouverts à l'infini des possibles et que nous pouvons sans cesse devenir ce que la métaphore de la fluidité de l'eau et du fleuve dit très bien. Mais attention, ça n'empêche pas d'avoir un projet central. Alors vous, c'est quoi ce projet? Je sais que la question est dure.
Non, bah justement, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé d'intuition, parce que je pense que le projet central, même s'il change, même s'il est en mouvement, c'est le même, toujours. Alors, on dit, il y a John Lennon qui disait, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait être quand il serait grand, et il a dit, je voudrais être heureux.
Ouais.
Et on lui a dit, c'est pas un métier. Mais en fait, il a tout compris. Parce que c'est quoi? C'est, on cherche tous une certaine forme de sérénité, d'équilibre. Même si, pour certains, l'équilibre, c'est justement le déséquilibre. Hein. Si on parle de Philippe Petit ou,
Mais alors, Philippe Petit, je précise pour les auditeurs, c'est un équilibriste génial qui marche sur un fil et sans aucune sécurité. Vous savez, ces fils tendus entre deux buildings.
Et d'ailleurs, il a inspiré beaucoup, beaucoup mon travail, puisque j'ai même toute une partie de l'album de 2011 qui lui
est
de 2007 dans l'album éponyme et dans l'album 101,
oui.
Il y a déjà It's All a Lie qui est tout autour de son histoire.
Être sur un fil.
Voilà. Et puis c'est quelqu'un qui m'inspire, tout comme l'eau. Toute cette idée de funambule ou de
c'est deux idées très très différentes d'ailleurs.
Ouais.
Est-ce que vous connaissez un livre où il est très question de Philippe Petit, qui est un livre magnifique qui s'appelle La lutte initiale? Écrit
non,
par Philippe Nassif. Alors c'est un livre que je vous recommande et que je recommande à tous les auditeurs. Et il y a cette figure comme ça de Philippe Petit qui occupe un tiers du livre. C'est un assez gros livre. Et Philippe Nassif nous montre que peut-être cet équilibriste est un guide de vie pour nous tous et nous toutes, au sens où il apprend à trouver un équilibre dans le déséquilibre et à se connaître tellement bien que finalement on est sur un fil comme d'autres sur un boulevard, quoi.
Absolument. Et moi je suis pas d'accord que c'est des idées totalement différentes, parce que dans les deux on reste à flot. Et dans l'eau et sur le fil. Et c'est toute cette idée-là, quand on me demande quel est mon désir ou quel est mon... C'est ça, c'est rester à flot. Oui. Donc pour certains, c'est la sérénité et tout. Et je pense que c'est ça, c'est tout écrire une chanson quand on parle, quand on est mouvementé par l'eau ou par l'air ou par n'importe quel matériau. C'est ça, c'est rester à flot qui est un peu le désir. Parce que c'est quand on est à flot, quand on arrive à sentir la matière, à la comprendre, à la...
C'est joli, rester à flot, mais ça veut quand même dire ne pas couler.
Bah, on peut couler en partie pour rester à flot en profondeur, dans l'eau, mais oui, ça fait partie du trajet. Couler, ça fait partie du trajet, même quand on veut rester à flot à d'autres, dans des eaux plus profondes ou dans l'air. Quelqu'un qui arrive à voler, il reste à flot dans l'air, donc il tombe.
Parce que vous voulez dire que dans la chanson qu'on a écoutée, il y avait cette idée de j'ai raté plusieurs
fois. Ma vie en deux temps, parce que oui, ça c'est un peu des clichés. C'est comme être trop occupé à faire d'autres plans, parce que ça aussi, ça vient de John Lennon, qui disait que life is what you do when you're too busy making other plans, ou je sais plus comment.
Ah oui, c'est pas mal. Alors, j'ai raté ma vie en deux temps, ça veut dire quoi?
En deux temps, oulala, ça peut être mille choses. En deux temps, enfin, je sais
là,
pas,
je c'est comme
Bukowski.
D'une chanson que t'as 20 ans.
Non, non, mais c'est comme Bukowski, c'est comme dire, c'est comme cet aspect où on peut, on ne peut pas battre la mort, mais on peut battre la mort dans la vie parfois.
Mais alors vous en dites, on comprend bien cette idée, il y a quelque chose de souriant dans ce que vous dites sur l'eau, mais quand même, dans votre dernier album Bleu, il y a quand même des chansons où on s'enfonce dans l'eau. Il y a notamment ce clip Sous l'eau que vous avez vous-même réalisé sur le suicide de Virginia Woolf. Je le précise pour les auditeurs que elle s'est lestée avec des cailloux pour être sûre de couler alors qu'elle avait beaucoup très peur de l'eau. Et qu'elle est morte comme ça. Donc cette eau-là n'est pas l'eau claire de tout à l'heure. C'est pas vraiment l'eau d'une renaissance. C'est plutôt l'eau de la mort, l'eau de la mythologie la plus obscure. Pourquoi vous avez cette fascination pour cette eau-là?
Parce qu'en fait, dans cette chanson, Sous l'eau, c'est vraiment le fil très très fin entre la vie et la mort. Parce qu'il y a dans cette chanson, on ne comprend pas, est-ce que c'est une naissance? C'est quelqu'un qui a donné naissance à un enfant dans l'eau, ce qui arrive souvent, qui est très moderne, c'est même presque hippie, et ça se fait de plus en plus souvent, de donner naissance dans l'eau, et donc avec le sang qui...
C'est un nom d'ailleurs.
Oui, ça
je l'ai oublié, c'est pour ça que je l'ai oublié.
Oui, sûrement.
De toute façon, une femme perd les eaux, même quand elle n'accouche pas dans l'eau.
Absolument. Donc il y a cette idée d'accoucher dans l'eau, et puis de cette idée aussi de départ, mort dans l'eau, quand on met des cailloux dans ses poches et quand on se laisse, on peut pas revenir dans la surface. Et donc dans cette chanson, pour moi, c'est pas forcément lié directement à la mort. C'est lié aussi à la naissance. Cette splendeur justement dans l'eau, elle pourrait justement être être liée à cet amour qu'on ressent quand notre enfant est né.
C'est vrai.
Comme plein de gens que je connais, et j'ai vécu dans un espace-temps très très court la mort de mon père et la naissance de ma fille, et les deux sensations ressenties, parce que je dis ça souvent, mais c'est pas forcément important là, mais c'est juste important pour l'association. Quand quelqu'un meurt dans nos bras, la sensation, c'est on est tellement proche de la mort, parce qu'on est en train de porter une mort, et c'est pas très loin d'un point de vue émotionnel de ce qu'on ressent quand on porte, quand on tient notre bébé quand il vient de naître. En tout cas, ça se ressemble beaucoup.
Dans votre cas, ça a été en plus très rapproché dans le temps.
C'était rapproché dans le temps, et puis la sensation, elle était pas identique, mais elle était très... Il y avait beaucoup, beaucoup de similitudes. Et donc, dans cette chanson, c'est un peu l'idée des deux. Voilà.
L'eau profonde a bientôt une autre tonalité psychologique. Elle est sans doute la première image de la profondeur dangereuse. La grande et simple image de l'abîme. Sans doute, la terre a ses crevasses et ses falaises, mais de tels abîmes, il semble qu'on puisse les explorer, les mesurer. Les abîmes de l'eau donnent tout de suite l'image de l'insondable.
Alors, vous avez reconnu la voix de Gaston Bachelard? Merci aux archives de Radio France, d'ailleurs. C'est incroyable d'entendre la voix d'un philosophe comme ça. Et le mot insondable dit très bien ce que vous disiez juste avant. Insondable est le mystère de la mort, insondable est le mystère d'une nouvelle naissance. Je ne veux surtout pas dire, je ne me permettrai pas, que quelque chose de votre père revient de votre enfant, je ne dis pas ça du tout. Je dis juste qu'on touche le même mystère, et il y a aussi cette idée comme ça de le tenir dans ses bras, de tenir le mystère dans ses bras.
Tout à fait, de tenir la mort comme de tenir une nouvelle vie. Et peut-être c'est ça, rater sa vie en deux temps. Ouais. Mais c'était un peu, il y a 20 ans, je ne le savais pas encore.
Alors justement, je propose qu'on écoute quelqu'un que vous connaissez bien, une chanson Odessa, Odyssée.
Mon amour, je dois courir, mais je ne sais qui ni quoi, je cours après.
Odessa, Odyssée.
Je sais qu'il y a des choses à fuir, il y a 100 000 regards à éviter.
Odessa.
Je reviendrai conquérir lorsqu'ici tout sera droit et redressé.
Odyssée. Odyssée.
Je pars à demi-sourire, mais crois-moi, je ne fais vraiment pas exprès.
C'était Kerenan et ce très beau morceau Odessa, Odyssée.
France Inter, sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Kerenan et c'est un vrai bonheur. On évoquait tout à l'heure la symbolique de l'eau, et notamment cette proximité de l'eau avec à la fois la vie qui commence et la vie qui meurt et qui s'enfuit et qui coule au fond. Mais autant j'ai l'impression que sur la vie et la mort, l'eau est assez polysémique, autant sur la joie et la tristesse, je ne trouve pas. J'ai l'impression, même si on pleure, que pour moi, l'eau est plutôt joyeuse que triste. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Que la joie est liquide, en fait.
Je suis entièrement d'accord. Et pour moi, c'est même une. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que ça rassure.
Oui.
Parce que l'eau est la plus rapport avec la joie. Elle a quelque chose qui, déjà, régénère, qui lave. Et puis, c'est l'endroit, enfin, quand on est dans l'eau, on peut, en fait, totalement, en fait, d'un point de vue musculaire, on peut totalement lâcher et accepter et être passif dans l'eau. C'est quelque chose qui est très difficile
sur Terre. Ouais. Et dans l'air aussi.
Et dans l'air, voilà. Et donc, c'est vraiment une... On arrive physiquement à être autrement qu'ailleurs.
Mais alors, comment on peut à la fois dire que la joie est, on va dire, d'essence liquide et en même temps ne pas être gêné par les larmes?
Les larmes, ça peut être émotionnel. Et dans les deux cas... Enfin, dans tous les cas, ça régénère aussi. On dit que pleurer un bon coup, ça fait du bien.
Et d'ailleurs, quand on est vraiment, vraiment mal, on ne pleure pas, en fait.
Voilà.
Quand les larmes arrivent, cette fluidification, cette fluidité indique quelque chose d'un retour de la vie, au fond.
Exactement. D'un nouveau début. On arrive à passer. C'est un sas. Parfois, pleurer, c'est un sas entre, en fait, quelque chose qu'on retient depuis très, très longtemps et on passe à autre chose. Et je suis entièrement d'accord que quand on est vraiment malheureux et triste, c'est pas là que les larmes sortent.
C'est très beau, hein, votre album Bleu. Et je propose aux auditeurs quelque chose, une expérience littéraire et musicale. Vous êtes là, en plein été, sur la plage, et vous allez donc écouter Bleu de Karenan, et aussi lire Bachelard, un incroyable livre. Donc, vous savez, Bachelard a écrit un livre par élément. À chaque fois, il traite comme ça la psychanalyse du feu, la terre et les rêveries de la volonté, et puis l'eau et les rêves, l'eau et les songes. Donc voilà, vous avez un bon programme sur la plage. Maintenant, Karenan, je voudrais qu'on vienne à la question de l'identité. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai suggéré que l'identité était trop figée, la même où la fluidité est un mouvement, et vous, vous êtes, de par votre histoire, votre culture, on va dire, d'une double ou triple ou quadruple culture. Dans vos parents, je crois qu'il y a des Pays-Bas et d'Israël, et en même temps, l'un des deux vient d'Indonésie, et vous avez grandi aux États-Unis, et puis vous préférez le français, et vous chantez parfois en anglais, parfois en français. Est-ce que cette multiplicité de votre identité, elle est, selon vous, le moteur de votre créativité?
Je ne sais pas si c'en est le moteur, parce qu'on peut tout à fait se sentir appartenir à plein de cultures sans en être, en fait. Sauf que je sens très très fort le côté russe, ashkénaze du côté de mon père. Je le sens couler en moi. Je sens dans mon ADN très fort, sur plein de plans. Le côté asiatique de ma mère aussi, je le sens. Et puis ça m'a pas étonné tard dans ma vie d'apprendre que le père de ma mère avait du sang français, parce que moi je me suis toujours sentie très très française, alors que pour moi c'était juste le pays où se sont rencontrés mes parents et que c'était romantique et c'est pour ça qu'ils ont choisi d'y vivre et que c'est comme ça que j'ai grandi en France. Et les années où j'ai vécu aux États-Unis, j'étais plutôt adulte déjà et c'était par choix, mais j'ai toujours préféré comme un aimant de revenir à Paris et revenir en France. Et je me suis toujours dit, c'est ici que je voudrais élever ma fille. Et c'était, il n'y avait même pas de question là-dessus. Et donc, oui, l'identité, elle est. En tout cas, mes origines, ils existent très, très fort dans ce que j'écris, dans la manière dont je réagis, dans mon pessimisme ou optimisme à certains moments. Mais après, je pense que. Pour n'importe quelle personne qui choisit d'écrire ou de composer ou de s'exprimer artistiquement d'une certaine manière, l'identité elle existe, et même quand elle n'est pas figée, même quand on continue à la découvrir, ça fait partie un peu de la quête qu'on fait
évidemment,
quand on est.
C'était bien mon idée. Je ne voulais pas dire qu'il y avait soit identité figée, soit rien. Il peut y avoir une identité en mouvement, on pourrait dire une multi-identité, on pourrait inventer un mot, une identité plurielle, évidemment.
Tout à fait.
Mais néanmoins, vous avez quand même beaucoup chanté en anglais. Oui. Et puis dans cet album-là, Bleu. Vous chantez en français. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que vous ressentez?
En fait, pour moi, c'est très très lié à l'environnement dans lequel je vis ce que je raconte. Par exemple, Bleu, je l'ai fait après quelques années où j'ai vécu dans un environnement francophone. Ouais. Tout ce que je vis là, enfin en tout cas, ça s'exprime, même s'il y a des choses que je vivais pas forcément en français, je les ai ressenties en français. Alors que mes albums en anglais, c'était dans des périodes où vraiment c'était lié à un environnement sonore anglo-saxon. Ouais. Et je pense que on me demande souvent comment ça se fait que j'ai jamais écrit en néerlandais ou en hébreu, alors que ce sont des langues qu'on a parlé chez moi. Et en fait, je pense que pour écrire dans une langue, il faut vivre dans cette langue. Il faut avoir de l'expérience dans cette langue. Il faut aimer quelqu'un avec qui on échange dans cette langue. Il faut Et donc souvent, les histoires que je raconte en anglais sont liées aussi à des histoires que j'ai vécues en anglais.
Ouais, c'est marrant.
Voilà.
Alors vous avez, pendant le confinement, élaboré quelque chose avec Irène Jacob, qui deviendra un spectacle, je crois qu'on peut dire ça comme ça, où justement, il y a un dialogue entre le français et l'anglais. On va écouter un petit peu, et puis après, on va essayer de comprendre.
André Chédid, Alban Jolie, Bukowski, je bricole. Et toi, toujours à New York?
What can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you, I guess I forgive you. I'm glad that you stood in my way. If you ever come back here for Jane or for me, well, your enemy's sleeping and his woman is free.
Alors, vous allez nous expliquer un peu cette aventure, mais avant ça, je voudrais faire remarquer que c'est incroyable ce dialogue. En fait, on devrait le faire plus souvent, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a un dialogue comme ça entre deux langues, que chacune des langues résonne différemment du fait que l'autre langue lui est en quelque sorte opposée, et on entend des choses nouvelles. Mais avant d'arriver à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous cette belle aventure.
Alors, Où es-tu? C'est une pièce qui a été... En fait, pendant le confinement, je donnais des rendez-vous régulièrement en ligne sur Instagram, et Irène, elle me rejoignait tous les dimanches pour une lecture de poésie, pour parler de poèmes qui nous font du bien, parce qu'on avait besoin de contenu, on avait besoin de se rassurer avec des mots de gens qu'on aimait lire, et puis les écouter avec la voix d'Irène, c'était toujours pour moi quelque chose de très réconfortant, justement, et qui rassurait beaucoup. Et en fait, après le premier confinement, on continue à se voir et puis à échanger un peu, à parler des poètes qu'on aimait, et on se demandait si on arrivait géographiquement à imaginer, par exemple, Leonard Cohen sur Clinton Street à New York, en train de parler d'une idée, de raconter une histoire, ou de parler d'amour, ou de manque, de la même manière que, par exemple, Paul Éluard pourrait en parler à d'autres moments de sa vie, ou Alban Jolet, ou Bukowski, ou ce rapport aux mots, à la vie. Et en fait, on a décidé justement de créer cette rencontre avec plein de poètes qu'on aime, avec des dialogues qu'on a écrits pour justement les lier. Et il y a beaucoup de... la plupart est en français, mais il y a pas mal de moments où, surtout dans les Bukowski, où on arrive aussi, où la langue prend son importance.
Bien sûr.
Et en fait, je me souviens quand j'étais petite, je disais à mon père s'il me manquait en anglais ou en français ou en hébreu, parce que ça n'avait pas le même sens. Manquer et aimer, ça pourrait avoir, parfois, avec la langue dans laquelle on la vit, à certains moments, ça pourrait avoir un sens différent.
C'est incroyable ce que vous dites. Alors, si votre père vous manque en hébreu, ça veut dire quoi? Et s'il vous manque en anglais, ça veut dire quoi?
Peut-être que s'il me manquait en anglais, c'est le fait de le retrouver en famille, quand on était entre nous tous, parce que c'est la langue... Il parlait avec ma mère une espèce d'anglais cassé, comme ça, parce que c'était pas leur langue maternelle, ni l'un ni l'autre. Et c'est comme ça qu'ils échangeaient, donc c'est cet aspect familial un peu abstrait où on échangeait des choses en anglais, où on écoutait peut-être Carole King ou Frank Sinatra ou Gainsbourg aussi, mais on écoutait ensemble. Ça, c'est me manquer en anglais, manquer en hébreu, c'est aussi c'est une tête-à-tête, c'est quand j'étais seule avec lui, il me parlait en hébreu.
Ah oui.
Et donc c'était lié à quelque chose qui avait un rapport avec son enfance aussi et son pays de naissance. Et donc oui, une personne... par exemple, le père de ma fille, ça fait très longtemps qu'on n'est plus ensemble, mais quand on se parlait en anglais toujours, mais parfois quand on disputait, il se mettait à parler une autre langue.
Quelle langue?
L'hébreu, en l'occurrence, parce qu'il a aussi grandi quelques années là-bas. Et en fait, pour moi, c'était plus la même colère. C'était plus la même colère. C'était vraiment, il avait besoin d'être à l'aise autrement. Pour exprimer une certaine colère. Il ne pouvait pas exprimer cette colère-là dans sa langue maternelle.
Vous pensez qu'il y a des absences qu'aucun mot ne peut combler, aucune parole?
Alors, c'est plutôt le contraire que je dirais. Je dirais que certaines langues ont réussi à combler certaines absences avec des mots plus que d'autres.
Là, vous pensez à l'hébreu, par exemple ?
Non, je pourrais, mais je pensais notamment à l'anglais, où parfois ils peuvent, avec des expressions ou avec l'ensemble de deux mots, résoudre un truc qu'on ne sait même pas exprimer en français. Et vice-versa, bien évidemment. Alors, il n'y a pas de mots qui me viennent à l'idée, mais c'est vrai qu'en musique, quand on est dans une architecture, dans une narration, on parle à la première personne dans une chanson, dans « You're gonna get love », je dis des choses que j'ai jamais réussi, par exemple, à exprimer en français. Mmh. Elle aurait pas pu exister en français, cette chanson.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, vous avez, dans cette chanson, la disparition, évoqué la question du manque en des termes très précis. Je propose qu'on écoute juste cet extrait, déjà. Et puis après, on se demandera si, de quel manque est fait, au fond, le désir.
C'est le seul vide que je comblerai peut-être, le seul horizon que je vois par la fenêtre, le seul sommeil qui pourra me faire renaître. Je t'embrasserai juste avant de disparaître.
Kerenan, on retrouve dans cette magnifique chanson La disparition tous les thèmes qu'on évoquait, l'eau, le manque, l'absence. Et il y a cette phrase qui me trouble, et il y a aussi le trouble dans la chanson, c'est le seul vide que je comblerai peut-être. C'est lequel ?
Alors, forcément, il y a cette grande question qui nous perturbe tous autant qu'adolescents, et puis c'est cette idée de la mort. C'est très très lié aussi en fait dans cette chanson, c'est le fait de tout couper, de tout arrêter. Ça veut pas forcément dire la mort, mais cette coupure et je pense qu'on essaye de la rendre poétique, déjà peut-être inconsciemment, parce que on lisait en fait quand on lit Virginia Woolf autant qu'adolescente, etc., il y a cette question de la mort qui revient sans qu'on sait que c'est la question de la mort, donc forcément ça ressort après qu'on le veuille ou non. Mais je pense que toute personne est obsédée par cette question-là. Est-ce que couper... alors que moi, je suis quelqu'un qui a toujours choisi la vie et j'aime vivre, mais je suis toujours aussi obsédée par cette question de la mort. Et donc, peut-être que... on dit souvent que ça arrête d'une manière abrupte quelque chose. Est-ce que ça arrête une joie ou une souffrance ? On se pose même pas la question, mais on sait que ça arrête.
Mais peut-être il faut cet arrêt pour que le fil de la vie soit palpable. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas comme ça d'arrêt, on ne sentirait pas le flux qui persévère.
Absolument.
C'est un peu comme quand on dit que, en fait, ce qui vient entraver une joie de vivre permet de mesurer la joie.
Bien
sûr. C'est la thèse de Clément Rosset qui explique que toute joie est contrariée, que toute vraie joie est contrariée.
Absolument, c'est pas ça. On dit toujours. Enfin, après, chacun, même Leonard Cohen, il en a fait une idée. Enfin, il y en a plein. Avec, il y a une fêlure dans chaque chose, dans toute chose. C'est ce qui permet de faire entrer la lumière. Donc après, chacun, avec ses mots, mais c'est exactement cette idée-là. Pour comprendre qu'il y a la vie, il faut qu'il soit coupé.
Et d'ailleurs, on retrouve aussi l'eau. Parce que l'eau, le courant, au fond, se voit quand il est entravé. Quand il y a quelque chose qui fait barrage. Et maintenant, Kerenan, je vous propose d'écouter, vous connaissez peut-être, Arlo Parks, une chanson Hope.
To talk the pleasure back into being alive, reminiscing about the apricots and blunts on Peckham Rye. Won't call her friends, 'cause she's ashamed of being locked into bed. You're not alone.
c'était Arlo Parks, Hope.
Sous le soleil de Platon.
Le sage dit, assieds-toi au bord de la rivière et tu verras le cadavre de ton ennemi passer. Avec un string en poutzel.
Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Kerena et nous parlons de joie liquide, de fluidité, de multiculturel, de créativité. Et tout à l'heure, je vous avais interrompu au moment où vous étiez en train d'expliquer que quand vous chantez en anglais, il se passe plutôt cela, et quand vous chantez en français, il se passe plutôt cela. J'arrête de vous interrompre.
Non, en fait, ce que je disais, c'est que l'écriture dans une langue et les différentes notes. C'est très rare que je puisse écrire la même chanson dans deux langues. Je pourrais peut-être essayer d'écrire la même émotion, mais via des histoires différentes, dans deux langues différentes. Après, d'un point de vue musicologie, il y a plein de musicologues qui diront que la langue française, elle est plus triangulaire, et la langue anglo-saxonne plus ronde.
Et triangulaire
au niveau de... Je pense que c'est les positions de mâchoire qui comptent, et puis comment le son ressort. Moi, je ressens pas forcément ça. Ce que je ressens, c'est... Il y a des syllabes et des lettres en français qui vont me demander peut-être une certaine forme concentration, de focus, pour justement que rythmiquement et au niveau des notes, pendant que je compose ou que j'écris la chanson, ils puissent trouver leur place et se placer. Et qu'en anglais, peut-être il y a quelque chose de plus fluide, mais par contre, il y a d'autres frontières qui font que pour raconter, il ne faut pas qu'on utilise trop de mots qui n'ont pas de sens et qu'on coupe court. Alors que parfois, mais après, c'est une question de technique. Mais je pense que j'aurais été triste de ne pas pouvoir faire les deux.
Oui, vous avez de la chance.
J'aurais été triste de ne pas pouvoir écrire et chanter dans les deux, oui.
Alors, je vous ai préparé un petit quiz. Alors, il n'y a pas de piège. Ce sont des questions courtes, réponses courtes. Alors, Kerenan, joie ou bonheur ?
Joie.
Tristesse ou mélancolie ?
Mélancolie.
Ça, je m'en doutais. Mer ou océan ?
Ah, c'est dur. Océan.
Pourquoi ?
J'aurais dit mer avant toutes les mers. Mais océan, il y a quelque chose de... Voilà, les vagues vont plus haut et on arrive à moins imaginer ce qu'il y a de l'autre côté.
Ah oui, il y a plus de mystère derrière, quoique.
Voilà, quoique, c'est vrai.
Origine ou fondement ?
Elle est très très dure. C'est fou parce que je pense que je pourrais vraiment vraiment dire d'une manière très authentique les deux y croire. J'irais origine.
Ouais, l'origine c'est juste le début.
Voilà.
Et le fondement c'est vraiment la cause première quoi. C'est ce qui fait qu'on pouvait pas être autrement. Donc il y a plus de liberté dans l'origine que dans le fondement.
Voilà.
Peur ou angoisse ?
Peur.
Au clair ou au trouble ?
Au trouble.
Orelsan ou Booba ?
Orelsan.
Vous n'avez pas hésité.
J'adore sa poésie.
Ouais.
Oui, je trouve que...
Vous avez fait des chansons avec lui, des duos ?
Non, je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec lui, mais en tout cas, après, il y a des choses de Booba que j'aime beaucoup aussi, mais c'est vrai qu'Orelsan, il avait cette chanson avec, qui parlait d'une chinoise avec un thème qui revenait. À l'époque, je ne me souviens plus comment elle s'appelait cette chanson, mais elle me rendait dingue. Elle était très très belle, ouais.
Ouais, c'est une chanson très dure.
Très dure.
Une chinoise qui est sur un marché.
Voilà,
qui a pas
exactement. Et cette chanson, je la passais en boucle, je la trouvais dingue.
Ouais, elle est très violente. Continuons le quiz. Légal ou légitime ?
Légitime.
Essence ou existence ?
Existence.
Réalisme ou idéalisme ?
Réalisme.
Virginia Woolf ou Emily Dickinson ?
C'est impossible pour moi de répondre. J'irai Emily Dickinson parce qu'en ce moment, je suis beaucoup plus dans l'œuvre d'Emily Dickinson parce que comme il y a des traductions meilleures en ce moment, donc j'ai l'occasion de partager dans des conversations en français maintenant parce que je ressens que on commence à se sensibiliser à son travail plus autour de moi en France, alors que moi, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai grandi. Enfin, après, oui, j'irai maintenant Emily Dickinson, parce que je suis contente qu'enfin on peut en parler beaucoup en français.
C'est un autre bon conseil pour la plage.
Oui.
Merci beaucoup, vous avez eu une bonne note à ce petit quiz de philosophie.
Super, je suis très contente.
Alors, dans vos textes, en tout cas, notamment en français, mais pas seulement, il y a quelque chose de très intéressant, je trouve, c'est que vous n'hésitez pas à relater une forme de banalité, je dirais, mais de manière non banale. Déjà, vous avez une voix qui n'est pas banale. D'ailleurs, une voix que vous avez, j'ai l'impression, approfondie, en fait, avec ces presque 3 décennies déjà de carrière. Et j'ai l'impression que vous avez ce rapport à la banalité. Elle vous fait pas peur, en fait. Et peut-être vous avez envie de la chanter.
En fait, je pense que tout peut être banal, ça dépend pour qui, on est d'accord. C'est l'observation qui m'intéresse, c'est la narration qui m'intéresse, parce que dans le songwriting, c'est tout simplement raconter quelque chose qu'on connaît à la première personne, c'est la manière dont on a envie de le raconter qui est intéressant. On pourrait dramatiser, on pourrait romancer, mais on pourrait aussi rendre la chose, enfin utiliser certaines banalités et décider que la forme et les mots qu'on utilise et la progression harmonique vont rendre cette chose banale.
Mais vous cherchez par exemple dans le banal le merveilleux, dans un geste on va dire je sais pas, baudelairien, ou alors vous cherchez aussi à simplement rendre sensible le banal en tant que banal, parce que c'est la vraie vie, et parce qu'au fond, il y a plein d'histoires à raconter dans cette vraie vie. C'est deux démarches différentes.
Non, c'est plutôt parce qu'en fait, je dis, quelque chose peut ne pas être banal quand on a 17 ans, parler d'avoir quelqu'un de mort entre ses bras et donner naissance, on ne le connaît pas encore, donc ça ne nous paraît pas du tout banal. À 50 ans, ça peut nous paraître banal, parce qu'on connaît plein de gens qui l'ont vécu, on l'a peut-être vécu nous-mêmes. Donc ça aussi, ça dépend à quel moment ça nous rencontre dans la vie.
Oui.
Pour moi, c'est pas autant essayer de raconter le banal, c'est que rien n'est réellement banal finalement.
Alors, est-ce que l'absence, c'est pas la plus belle des présences pour faire un beau morceau de musique ?
Pour tout faire. C'est-à-dire que je disais toujours, mais bien avant de vivre l'absence familiale, ou bien ou juste le cœur brisé, ou même l'absence qui est dans mon ADN, je disais tout à l'heure, parce que ce soit lié au pogrom ou à ce son ashkénaze européen. En fait, l'absence... elle m'a toujours obsédée, ça a toujours été aussi le sujet dans mes psychanalyses. Et je pense que, quelque part, dans la littérature en général, en tout cas celle que j'ai connue et celle qui m'a touchée, quand on parlait des choses dans leur absence, ça leur donnait une valeur presque plus importante. Je disais toujours que j'aimais parler de Paris quand j'étais à New York et parler de New York quand j'étais à Paris. C'est pareil pour les histoires d'amour et c'est... On arrive avec le recul, à comprendre mieux les choses. Quand on n'est pas chez soi, on arrive à comprendre l'importance que ça a d'être chez soi. Et puis c'est pareil avec les gens. Et donc je pense que pour moi, c'était un peu la solution de tout. C'est-à-dire que pour comprendre quelque chose, il me faut son absence. Pour comprendre une situation, pour comprendre une personne, pour comprendre une douleur, pour comprendre quelque chose que je traverse, il faut que je prenne, il faut que ça soit, il faut que j'ai de la distance pour la comprendre.
On peut aussi d'ailleurs vivre l'absence dans la présence. Je pense à cette une chanson, je crois, de Gaëtan Roussel qui dit « Tu me manques même quand tu es là ». Vous la connaissez ou pas ?
Non, je connais pas.
Là c'est belle chanson. « Tu me manques même quand tu es là », ce qui peut vouloir dire soit que j'ai tellement envie que tu sois là que j'ai envie que tu sois là encore plus même quand tu es là, soit cette idée que peut-être j'anticipe aussi, déjà, alors que tu es là, le moment où tu ne seras pas là, et où cette vérité de ce qui se joue dans la présence, je pourrais la mesurer.
Justement, ça m'emmène à cette chanson de Bob Dylan qui s'appelle Boots of Spanish Leather, où pendant toute la chanson, dans cette correspondance, la personne qui part écrit, il va en mer et il écrit à la personne qui reste, il écrit est-ce que je peux t'emmener quelque chose, est-ce que je peux t'emmener, te rapporter quelque chose de mes voyages en Europe ou... Et en fait, à chaque fois, la personne dit non. Et puis, quand elle se rend compte que la personne peut-être ne reviendra jamais, c'est là qu'elle demande qu'il lui ramène des bottes de cuir espagnol. Et en fait, c'est un peu ça. C'est
ouais,
quand
sûr.
Les choses nous échappent. Mais par contre, on les aime bien, les choses, dans leur absence.
On essaie aussi de matérialiser l'absence par des choses présentes, le plus possible. Alors, Karenan, vous n'êtes pas simplement la chanteuse qu'on a entendue dans ces chansons, on va dire, pop. Vous côtoyez aussi la musique classique, vous travaillez sur un opéra avec l'Opéra de Rennes, vous avez une tournée en janvier, je crois, avec le Quatuor Debussy, et puis parfois aussi vous produisez, je crois que c'est le terme, les autres, et justement j'aimerais qu'on écoute ce qui reste justement d'une de ces productions.
Laissez tomber la lumière, ton rire, ta voix, le sel sur les paupières, ce qui restera, l'aéroport désert, une phrase de toi, un dimanche ordinaire, ce qui restera à la fin, il restera le trajet brûlant, un autocar Waraka. Et nous avons...
Donc c'était Vincent Delerme, produit par vous, c'est ça?
Oui, en fait, il a fait un album où il a demandé à chaque artiste dont il avait envie de produire, de réaliser, d'arranger, voilà, d'arranger un titre. Et ça, c'était celui que j'ai eu la chance d'avoir. Je l'aimais beaucoup, ce titre.
Ah oui, donc en fait, vous l'avez, mais vous l'avez écrit aussi?
Non,
c'est sa chanson.
C'est sa chanson.
Mais vous l'avez produit, arrangé,
réalisé,
c'est ça, d'accord.
Voilà.
Et vous avez aussi écrit des chansons pour les autres. Je pense,
oui,
à Sylvie Vartan, par exemple. C'est quoi votre plus beau souvenir de chansons écrites pour quelqu'un?
Bah, déjà, il y a le premier album vraiment qui a eu du succès, c'est Chambre avec vue d'Henri Salvador, qui était un peu c'était très très fort, ouais, parce que j'étais très jeune, on a travaillé sur cet album avec Benjamin Biolay, on était très très jeune, et par rapport à la voix d'Henri, moi je connaissais la voix d'Henri, j'étais bercée par sa voix, donc c'était comme écrire pour un instrument que je connaissais.
Ouais.
C'était assez fascinant. Et puis, bien évidemment, il y a eu une fois en 2011, j'ai joué un concert à New York au Bowery Ballroom, et j'avais l'impression de voir David Byrne dans le public, et j'ai dit ça à mon tour manager en croyant que c'était quelqu'un qui lui ressemblait. En effet, c'était lui. Et deux ans plus tard, il a fait une reprise de Strange Weather, et donc je me suis permis de lui proposer de venir chanter en duo avec moi sur mon album, et ça, c'était génial de travailler avec quelqu'un dont on connaît la voix aussi, David Byrne, que
je connaissais. C'est la chanson Le goût de l'inachevé.
Si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre verre.
Si vous étiez ma femme, je le boirais. Si vous étiez ma femme, je vous emmènerais près des falaises.
Si j'étais votre femme, je sauterai.
Voilà, on voit bien que c'est quelque chose d'un peu différent encore. C'est ce qu'on a essayé de faire ce matin, de présenter le panorama, pour reprendre ce titre de la chanson de Vincent Delerme que vous avez arrangé, du monde, de l'univers de Kerenan. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés fluidement, je dirais, sous le soleil de Platon. J'ai essayé de résumer pour nos auditeurs, comme je le fais chaque matin, la philosophie de la vie de mon invité. Alors comment dire, c'est une philosophie de l'absence, une philosophie de la fluidité, une philosophie de la quête, une philosophie du passage aussi, de plein d'héritages qui s'entremêlent et s'entrelacent. Et puis au cœur de cette quête, il y a, je dirais, ce manque dont vous avez si bien parlé, cette absence, et ce qui vient nourrir l'absence de présence, c'est ce sens des mélodies, ce sens aussi des arrangements très très travaillés, cette délicatesse. On n'a pas parlé de ça aussi, mais vous êtes plutôt quelqu'un de discrète, au fond on a l'impression que vous aimez la lumière, mais que vous n'allez pas passer la vie à aller la chercher non plus. Il y a quelque chose de pudique aussi dans cette façon de chanter, et quelque chose de parfois aussi très très profond dans sa façon d'être ici et ailleurs. Et je dirais, et c'est un petit peu le résumé de tout ça, d'être très 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 présente jusque dans l'absence. Merci beaucoup, Kerenan.
Merci beaucoup.
Cette émission a été réalisée par Alicia Vulot, avec à la technique Clément Berman, à la programmation musicale Valentine Chaudebois, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée, merci mille fois, par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les jours à 10h exactement, à la caverne de France Inter, sous le soleil de Platon.